Et puis là, il tend la main vers lui et puis il dit « Je suis ton père.
Mmh, » Passe-moi la crème.
Vous reprendrez bien un peu de science-fiction à la plage. Je suis ton père, quoi. C'est un truc de dingue, quand même.
T'étales bien, hein.
Vous reprendrez bien un peu de science-fiction à la plage. De nouveau cette année, l'émission de SF de Radio Évasion revêt son plus beau maillot de bain, étale bien la crème solaire et s'allonge sur sa serviette de plage pour vous présenter des émissions estivales. Petit changement toutefois, pas d'émission collégiale, mais une série d'entretiens en tête-à-tête dans une atmosphère qui se veut plus intimiste. Chaque semaine, mes invités, musiciens, auteurs ou simples passionnés de science-fiction, viendront présenter des œuvres qui les ont marquées et qui peut-être pourraient vous intéresser, histoire d'étoffer votre liste de lecture et de visionnage pour les jours qui arrivent. Alors, installez-vous confortablement dans votre transat, chaise longue ou hamac, laissez le soleil aller votre épiderme et savourez les émissions de « Vous reprendrez bien un peu de science-fiction à la plage ». Aujourd'hui, nous sommes avec Julien Mick. Julien, bonjour.
Bonjour.
Julien, vous êtes chroniqueur de littérature SF pour le magazine Ouzbek Erika. Deux petits mots pour présenter ce magazine.
Alors, Ouzbek Erika, le média qui explore le futur. Voilà, c'est une revue prospectiviste, en fait.
D'accord.
Qui essaie d'étudier, on va dire, notre... ce que pourrait être notre futur et en tout cas ce que notre présent laisse présager pour ce qui pourrait advenir à tous les niveaux, on va dire. Mm-hmm. Et donc c'est un magazine qu'on peut retrouver à la fois en ligne et sous forme papier. Alors c'est deux magazines différents et complémentaires.
D'accord.
Voilà. En ce qui me concerne, je rédige des articles, donc des chroniques de lecture sur le site internet qu'on peut voir sur le site Ouzbek Erika.
Ok, très bien. Et vous êtes aussi rédacteur sur votre site, lescarnetsdystopiques.fr, qui sont, eux, consacrés aux lectures imaginaires, dans un ensemble, pas que l'ASF.
C'est ça, voilà. C'est tout ce qui relève de la littérature imaginaire, donc science-fiction, fantasy, ça peut être du fantastique, mais ça peut être aussi tout ce qui peut toucher éventuellement aux mythes et légendes ou des essais consacrés à l'ASF.
D'accord, très bien. Et en plus... Vous êtes photographe et auteur de plusieurs livres aux éditions Glénat, dont le dernier qui est sorti le 4 mai dernier, qui s'appelle « Ouessant, Molène, Saint, Île d'Iroise ».
Oui, voilà. Ça, c'est mon autre activité, on va dire. En général, voilà, ce sont différentes activités d'auteur qui, en apparence, n'ont pas beaucoup de liens entre elles, certes. Mais on peut quand même en trouver, finalement. C'est toujours
Il y aura une trame invisible, mais qui est là, néanmoins.
C'est ça, tout à fait.
Et dans les chroniques que vous faites sur les carnets dystopiques et pour le magazine Ouzbek Erika, c'est le thème « Pourquoi faut-il relire ce livre en 2022 ?»
Alors ça, c'est sur Ouzbek Erika. Effectivement, tous les mois, il y a un article consacré à un livre relativement ancien qui peut avoir 40, 50, 60, un siècle. Peu importe, voilà. Mais en tout cas, qui a pu être écrit en imaginant ce que pourrait être le futur. Un futur qui, souvent, aujourd'hui, est devenu notre passé. Et donc, quelque part, qu'est-ce qui peut être intéressant dans le fait de relire aujourd'hui ces livres-là? Qu'est-ce qui est intéressant quand on essaye d'analyser la manière dont on imaginait notre futur il y a de ça 50 ans? Voilà, ça, c'est quelque chose que je trouve assez intéressant parce que parfois, on a des auteurs qui vont avoir mis dans le mille, hein, comme on dit, d'autres moins. Mais en tout cas, qu'est-ce que ça nous révèle sur ce qu'on pouvait attendre et sur ce qui est réellement arrivé? Est-ce que c'était si prévisible ce qui se passe aujourd'hui?
Oui. Comme j'ai l'habitude de dire, l'anticipation est un sport à risque.
Oui, tout à fait. Voilà, c'est l'occasion de s'en rendre compte et de vérifier ça.
Et sans forcément blâmer les anciennes œuvres.
Non, bien au contraire, justement, c'est là qu'on voit à quel point c'était, c'était de la prospective aussi, et à quel point ce sont des exercices de réflexion, finalement, qui peuvent fonctionner, et pourquoi, finalement, c'est utile aujourd'hui de continuer à réaliser ces exercices de réflexion-là, que sont les œuvres de science-fiction.
Tout à fait. Et donc, aujourd'hui, on est là pour parler de science-fiction dans la littérature, et comment vous définiriez déjà la science-fiction ?
Quand on pose la question à quelqu'un sur, finalement, quelle est votre définition de la science-fiction, on s'aperçoit rapidement qu'on n'a jamais la même réponse. Chacun aura sa manière de définir ce qu'est sa vision de la science-fiction. Donc, effectivement, trouver une définition claire et nette, ce n'est pas évident. On pourrait déjà regarder le nom lui-même de science-fiction.
Oui, déjà, à la base.
Science-fiction en soi, finalement, en français, ça ne veut pas dire grand-chose.
Non.
Ce sont deux mots à coller. Alors pourquoi ? Parce que effectivement, c'est un terme anglo-saxon.
Oui, qui était repris directement de l'anglais.
Qui a été repris directement sans être même véritablement traduit, finalement.
Oui.
Si on l'avait traduit correctement, on aurait traduit ça probablement par fiction scientifique. Ce qui est un peu plus compréhensible, pour le coup, mais qui pose aussi problème, puisque dans fiction scientifique, il y a fiction. Donc la fiction, forcément, c'est quelque chose d'imaginaire, quelque chose qu'on a créé, quelque chose qu'on a inventé, qu'on a pensé. Alors que la science, le côté scientifique, ce sont les faits. Donc c'est quelque chose qui n'est pas imaginé du tout.
C'est antinomique un petit peu.
Voilà, complètement. C'est un paradoxe.
Ouais.
Ce qui convient très bien à la science-fiction, c'est vrai. Mais c'est néanmoins un paradoxe. Donc la SF, c'est quelque chose qui est à la fois factuel et imaginaire.
Oui.
On peut comprendre qu'effectivement la définition soit compliquée.
On peut déjà perdre beaucoup de gens rien qu'avec ça déjà.
Voilà, à la fois factuel et imaginaire. Alors j'avais trouvé un jour une citation d'un auteur qui s'appelle Michel Butor et qui en avait posé la question et qui disait si le genre science-fiction est assez difficile à délimiter, il est du moins des plus aisés à désigner. Il suffit de dire, vous savez, ces récits où l'on parle de fusées interplanétaires, pour que l'interlocuteur le moins préparé comprenne immédiatement ce dont il s'agit. Alors ceci n'implique pas que dans tout récit de science-fiction intervienne un tel appareil. On peut le remplacer par d'autres accessoires qui joueront un rôle comparable. Ouais. Donc ça, c'est ce qu'il disait, et qui est, me semble-t-il, assez réducteur, puisque ça réduit en quelque sorte le récit de science-fiction
à l'accessoire.
À l'accessoire. Voilà. Mais ça illustre très bien ce qui apparaît dans notre inconscient collectif, finalement, et l'idée préconçue qu'on peut se faire de la science-fiction, notamment quand on n'en a pas l'habitude et quand on n'est pas habitué à lire ou à s'intéresser à ce domaine-là, de la littérature en tout cas. Donc, une autre manière d'essayer de définir ce que c'est finalement de regarder dans le dictionnaire. Alors moi, j'ai regardé, je suis allé dans le Robert pour savoir effectivement qu'est-ce qu'on pouvait trouver comme définition. Et j'ai lu, science-fiction est un genre littéraire et artistique qui décrit un état futur du monde en extrapolant les données de la science ou de la technologie. Voilà, c'est relativement concis, mais en tout cas, ça fait appel à une notion de société future. Donc, la notion de futur est centrale, finalement, dans cette définition. Je trouve aussi que c'est à nouveau réducteur, mais en tout cas, c'est une manière, effectivement, de définir la science-fiction.
Donc. Oui. Dans ces définitions-là, on essaye d'être plus vague, entre guillemets, pas commencer à extrapoler.
Voilà,
mais
c'est ça.
Est-ce que... Au-delà de la définition même de la... Parce qu'on parle beaucoup dans la définition de science, de technologie, est-ce que la SF peut être crédible scientifiquement ?
Alors, est-ce qu'elle peut être crédible ? Oui. Est-ce qu'elle doit l'être ? Ça, c'est une autre question. Moi, quand j'ai commencé finalement à lire de la SF, je l'ai fait en découvrant un livre que j'ai amené d'ailleurs, on ne peut pas le voir, mais ici, sur le plateau. Un livre assez ancien qui s'appelle Les 20 meilleurs récits de science-fiction.
D'accord.
Et dans ce livre, il y a une préface qui avait été écrite par Hubert Join. Alors, c'était en 1964, donc ça nous ramène à un certain temps. Ouais, voilà. Mais cette préface était pratiquement un essai sur ce qu'est finalement la science-fiction littéraire.
D'accord.
Et il a écrit notamment dans cette préface : la science-fiction est au roman d'une part et à la science d'autre part ce que les géométries non euclidiennes sont à Euclide.
Oh, voilà.
Pour les scientifiques. Hein. Donc, je poursuis. Dans le roman traditionnel, il faut que les monstres soient plausibles. Dans le récit de science-fiction, il suffit que les monstres soient possibles.
Ah oui.
Voilà. Donc ça nous dit en fait qu'en réalité, la SF ne se base pas nécessairement sur des faits ou des vérités scientifiques, mais sur les hypothèses que ces faits rendent possibles.
D'accord.
Par exemple, on ne sait pas du tout s'il existe des civilisations extraterrestres. On ne les a jamais rencontrées, on ne les a jamais observées. Bon.
C'est ce que je cherche.
Voilà. Mais nous savons qu'il est scientifiquement possible qu'elles existent.
Oui.
Donc, un roman de science-fiction, finalement, c'est un postulat scientifique. Son réalisme scientifique se limite à sa possibilité d'être.
D'accord. Dans le cadre de l'œuvre.
Oui, bien sûr. Donc, c'est-à-dire que si ce qu'il décrit n'est pas scientifiquement possible, alors on n'est plus dans la SF. On va être dans la fantasy, par exemple. Oui. Fantasy, pour rappel, c'est un genre qui fait intervenir la magie. Voilà, donc là, on n'est plus dans la science.
Non.
Donc, on sort un petit peu. Ou ça peut être le fantastique aussi. Fantastique, lui, qui va plutôt faire appel aux croyances anciennes, aux mythes, aux légendes, etc.
C'est ça.
Alors, la frontière entre les différents genres est relativement perméable malgré tout.
Oui.
Mais en gros, on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire la science-fiction, c'est une possibilité de réalité alternative,
d'accord,
scientifiquement possible.
Voilà. Et est-ce qu'on peut dire qu'il y a de la bonne et de la mauvaise SF alors?
Oui. Enfin, oui. On peut. Sans aucun doute, on peut. Alors... C'est évidemment un grand débat, mais je vais rester toujours dans les citations de ce monsieur qui était Bergeon, hein, parce que ce bouquin m'avait beaucoup marqué quand j'étais jeune. Et il avait écrit également « Ce qui embarrasse au plus haut point l'amateur de science-fiction et ce qui lui fait souvent condamner et rejeter des ouvrages du genre, c'est le fait que les auteurs se contentent de substituer aux rites humains d'aujourd'hui d'autres rites, sans modifier d'une façon convaincante l'homme. » Donc ça veut dire qu'il y a une dimension psychologique, une dimension psychologique qui est capitale, puisqu'il ne s'agit pas d'inventer une histoire de fusée, comme on nous le disait tout à l'heure, mais il faut inventer l'histoire d'un homme ou d'une femme, dont l'état d'esprit, la culture, le mode de pensée... sont façonnés par un monde qui est fondamentalement différent du nôtre.
D'accord.
Il se trouve qu'il est dans une fusée, peut-être, mais la fusée n'est qu'un accessoire.
Oui.
Voilà. Donc, sans cette dimension psychologique, on n'est pas vraiment dans de la science-fiction. On va être dans du divertissement ou de l'entertainment hollywoodien, par exemple.
Voilà. Et c'est justement l'approche psychologique, est-ce que c'est ça qui fait un peu l'attrait de la science-fiction ?
En tout cas, c'est à mes yeux ce qui en fait la valeur.
D'accord.
Oui. Puisqu'on se place dans la tête d'un individu, d'un homme, d'une femme, d'un non-binaire, voire d'un hermaphrodite, dans la main gauche de la nuit, par exemple, Ursula Le Guin, ça se voit. En tout cas, on se place dans la tête d'un individu donc, qui vit dans un univers où la société est fondamentalement différente de la nôtre, donc, technologiquement, culturellement, politiquement ou sociétalement. Donc on réalise en fait que ce qu'on appelle ce qu'on est en train de faire, c'est une expérience de pensée.
D'accord.
Donc qui dit expérience de pensée dit philosophie finalement. L'expérience de pensée qui est proposée par un récit de science-fiction est alors un exercice philosophique. Là encore, on s'éloigne du simple divertissement et c'est finalement cet exercice philosophique qui fait, je pense. Aussi tout l'attrait de la science-fiction.
D'accord. Donc la SF, c'est quasiment... Faudrait la mettre à côté du rayon philo ?
Alors pas forcément. Mais forcément. D'abord parce que c'est une fiction, comme son nom l'indique.
Oui.
Alors, effectivement, on trouve quand même des fictions dans le rayon philo et de la philo dans le rayon fiction.
Oui,
tout à fait. C'est pas incompatible. Mais disons que voilà, la science-fiction, c'est avant tout une fiction. Donc on va peut-être pas le mettre directement dans le rayon philosophie.
Oui.
Et puis, il y a une différence fondamentale quand même. Alors, je vais essayer d'expliquer ça relativement simplement, mais quand on y pense, la philosophie, c'est une science qui tente d'étudier le présent à l'aune de notre passé.
D'accord.
Okay. Donc, elle analyse notre présent, donc ce que nous sommes aujourd'hui, à l'aune de notre histoire passée, donc notre histoire depuis la Haute Antiquité ou peut-être même plus loin, mais en tout cas depuis, et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la minute qui vient de s'écouler.
D'accord.
Donc, elle analyse notre présent à l'aune de notre histoire passée. La littérature de SF, elle fonctionne différemment. C'est-à-dire qu'on peut dire, a priori, qu'elle étudie notre futur, hein, puisque la définition de, tout à l'heure, on parlait de futur. Elle étudie notre futur à l'aune de notre présent. En inverse, en quelque sorte, les choses.
Oui.
Voilà. C'est-à-dire qu'on va prendre une caractéristique du monde d'aujourd'hui, une caractéristique scientifique, une caractéristique de la société. On va la triturer, on va essayer de comprendre où elle peut nous amener, vers quel futur possible.
D'accord.
Finalement, c'est ça qu'on appelle la dystopie.
Oui, quand ça part mal.
Quand ça part mal, alors. Voilà. Quand ça, voilà. Quand ça part mal. En tout cas, quand ça part différemment de ce qu'on pourrait attendre dans le meilleur des cas. On va dire ça comme ça. Voilà. Donc, en quelque sorte, la SF imagine un futur qu'elle analyse. Alors, accrochez-vous.
Oui.
Qu'elle analyse à l'aune du passé de ce futur.
Non dédié.
Puisqu'il se trouve être notre présent.
Oui.
Voilà.
Oui.
Donc, c'est ça.
Hein. Oula, oui, en effet.
C'est bon.
C'est bon, j'espère que tout le monde a raccroché à la radio. Et pour l'instant, c'est bon, on s'accroche, on suit. Et donc, si on parle de futur de notre présent, entre guillemets, on est forcément dans une perspective de prospective. Est-ce que la SF va forcément voir dans le futur ?
Alors effectivement, on peut se poser la question... Et pour poursuivre un petit peu le raisonnement que je viens de faire juste avant, en réalité, on pourrait dire que ce n'est pas vraiment le futur que l'on étudie, pardon, mais c'est bien notre présent. C'est-à-dire que dans une dystopie, on va exacerber une caractéristique de notre société actuelle, et on va regarder ce qu'elle pourrait donner si elle évoluait pendant quelques années, quelques siècles ou quelques millénaires.
D'accord.
Mais à bien y regarder, c'est quand même toujours notre société actuelle que l'on triture, que l'on interroge. C'est une caractéristique de cette société d'aujourd'hui qu'on va triturer. C'est sur celle-ci qu'on va focaliser notre attention. Alors, on va bien sûr la regarder sous un angle différent. On va mettre un filtre particulier. Mais c'est toujours de notre société actuelle qu'on parle.
D'accord.
Donc, ce n'est pas nécessairement prospectiviste dans le sens où ce n'est pas vraiment le futur qu'on regarde.
D'accord. C'est notre présent qui évolue.
C'est notre présent qu'on essaye de
triturer.
On va se focaliser sur une caractéristique de notre présent, mais en utilisant un artefact qui va être, par exemple, de se mettre dans une société future où ce qu'on a envie de mettre en avant est exacerbé.
Tout à fait. Donc, la science-fiction n'étudie pas le futur à l'aune du présent, mais elle étudie bien le présent à l'aune du futur. C'est bien, si j'ai bien compris.
Oui, d'un futur possible, en tout cas.
D'accord.
Un futur possible. On peut même aller plus loin en disant qu'elle étudie, en fait, la société présente, à l'aune d'une société future potentielle.
D'accord.
Ça, c'est ce qu'on va retrouver dans la dystopie, ou dans l'utopie.
Oui.
Qui est en quelque sorte son inverse, d'accord. Dans l'utopie, qui est encore une variante de l'utopie, finalement.
Et l'utopie, c'est quoi pour...
Alors, c'est assez subtil, mais on va dire que l'utopie, c'est bien souvent, ça décrit une société parfaite impossible.
D'accord. Ouais.
Ça finit généralement en dystopie, les utopies.
Voilà, c'est ça.
Voilà. Une utopie, non. Une utopie, en quelque sorte, c'est une utopie qui fonctionne.
Réaliste.
Voilà. Réaliste, je ne sais pas.
Oui, oui, mais qui marche.
Mais qui fonctionne, voilà.
D'accord. Très bien.
Voilà. Donc, je disais... Donc, on étudie la société présente à l'aune d'une société future potentielle, mais aussi, pourquoi pas, une société présente alternative. Alors ça, c'est l'Uchronie.
Tout à fait.
Donc, on n'est pas dans le futur, on est dans le présent.
Dans le présent qui était modifié dans le passé.
Oui, voilà. Et qui se trouve être, en tout cas, un présent alternatif.
Tout à fait.
Voilà. Et on peut aussi... ça peut aussi être une société passée. C'est-à-dire... comment dire ? Pourquoi ne pas placer un roman de science-fiction dans le passé, finalement ? Qu'est-ce qui différencie une société qui serait post-apocalyptique, qui va revenir à quelque chose qui ressemble à ce que l'homme était au temps préhistorique ? Qu'est-ce qui va différencier un roman post-apocalyptique de ce type-là d'un roman préhistorique ?
Ah oui.
Donc finalement, tout ça, ça n'est jamais qu'un un exercice de pensée, encore une fois.
D'accord.
Mais ça met bien en évidence le fait que la science-fiction n'est pas nécessairement, ne doit pas nécessairement se dérouler dans le futur. Ça peut fonctionner dans le présent, c'est le cas de l'Uchronie, ça peut fonctionner dans le passé aussi.
D'accord. Donc c'est un... on a vite fait tracer les... notre définition de la science-fiction. Et quelle est sa place de la SF dans la littérature en général ?
Alors, selon moi, la science-fiction, c'est avant tout une expérience de pensée philosophique. À ceci près qu'elle ne se base pas sur des réalités historiques, comme la philosophie traditionnelle, on va dire, mais plutôt sur des possibilités scientifiques.
D'accord.
Donc, en évoquant des réalités alternatives, des univers parallèles, des voyages temporels, des planètes lointaines, ou des martiens verts, gris ou de n'importe quelle couleur. En tout cas, c'est toujours de nous, aujourd'hui, que parle un récit de science-fiction.
D'accord.
C'est-à-dire qu'il nous amène à réfléchir, à nous questionner sur ce que nous sommes en tant qu'individus et en tant que société. Donc plus que la place dans la littérature, je pense qu'il faudrait parler de sa fonction en tant qu'œuvre littéraire, sa fonction qui est, à mon sens, de nous questionner sur notre place à nous, individus, dans la société, dans le monde et puis dans l'univers.
D'accord. Bon, moi ça me va comme définition.
Formidable.
Voilà. Donc et ben là, on arrive déjà à la fin de l'émission. Donc merci beaucoup Julien, c'était très passionnant. Revisiter la définition de la SF, j'espère que les auditeurs de Radio Évasion apprécieront. En tout cas, merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci. Au revoir.
Au revoir.
Et voilà qui conclut cette émission de Vous reprendrez bien un peu de science-fiction à la plage. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine rencontre.